Radio Okapi. Au sommaire, cette mi-journée sur Radio Okapi, calme et précaire ce samedi dans les zones de Kibumba, territoire de Nyiragongo et Kichanga, territoire de Masisi au nord Kivu. Des affrontements ont opposé hier les groupes d'autodéfense Wazalendo aux rebelles M23. Le point de la situation dès les débuts de ce journal. À Bounia, des agents et fonctionnaires de l'État dénoncent le monnayage selon eux dans l'opération des contrôles biométriques en cours. Le chef des divisions provinciales de la fonction publique parle plutôt des contributions volontaires. L'invité du journal est le major Hassan Keira, membre du bureau du porte-parole militaire de la MONUSCO. Il parle de la poursuite des opérations cette semaine visant à protéger la population en Ituri et au Nord Kivu. Madame, Monsieur, bonjour. Ouvrons ce journal au Nord Kivu. Les zones de Kibumba, territoire de Nyiragongo et Kichanga, territoire de Masisi, se sont réveillées dans une accalmie ce samedi. Ceci après une journée de vendredi agitée à la suite d'affrontements qui ont opposé les groupes d'autodéfense et Wazalendo aux rebelles M23-RDF dans les deux parties de la province. C'est plusieurs sources indiquent que les rebelles ont encore reconquis certaines localités qu'ils avaient perdues sur l'axe Kiloli-Rouen-Touro. Bernard Nyangi nous en parle.
Dans le territoire de Masisi, les localités de Kiloli-Rouen-Touro jusqu'à Tebero sont passées à nouveau sous le contrôle des rebelles du M23 autour de 21h hier vendredi, indiquent plusieurs sources locales dans la région. Les combattants Wazalendo auraient décroché de ces villages à l'arrivée d'un important renfort des rebelles venus de Burungu, Bouiza et du parc national de Virunga. Dans la même zone, les rebelles auraient aussi renforcé leurs positions, notamment celles de Tongo, Bishusha et Bouiza autour de Kichanga. Conséquence, les Wazalendo, qui venaient déjà de reprendre le contrôle de cette localité stratégique dans la journée de vendredi, ont dû se replier dans les collines environnantes pour, selon certaines sources, éviter des victimes collatérales en cas d'une contre-attaque du M23 sur Kichanga. Ainsi, la situation reste tendue et imprévisible dans cette zone. D'autre part, des escarmouches ont été rapportées toute la journée d'hier vendredi sur l'axe Kibumba en territoire de Nyiragongo. Selon plusieurs sources, la présence dissuasive de la force régionale a atténué la situation. Le M23 garderait toujours ses positions dans et autour de Kibumba alors que les Wazalendo sont dans les environs. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Et puis cette information qui nous vient de l'ambassade de l'Ouganda en République démocratique du Congo. Cette dernière apporte des précisions sur ce qu'elle qualifie de fausses allégations sur les bornes frontières délimitant la République d'Ouganda et la RDC. Dans un communiqué de presse parvenu à Radio Okapi ce samedi 7 octobre, l'ambassade d'Ouganda en RDC affirme qu'aucune autorité ougandaise ni une autre personne ayant un lien avec la République d'Ouganda n'a été impliquée dans cet acte des bornes frontières entre les deux pays. La même source rappelle le ferme attachement de la République d'Ouganda au principe de l'inviolabilité des frontières telles qu'héritées des puissances coloniales. Elle souligne que la frontière internationale entre la République de l'Ouganda et la RDC est définie dans l'accord entre les Royaumes-Unis et le Royaume de Belgique relatif aux frontières en Afrique de l'Est du 3 février 1915. Restons au Nord Kivu. Les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri ne doivent pas continuer à être traitées au même titre que les autres provinces de la RDC. Elles doivent être déclarées comme zones sinistrées. C'est l'essentiel de la demande d'un élu provincial de Beni au chef de l'État à travers une pétition qui a atteint plus de 100 000 signatures. Dans cette pétition initiée par les députés Bayengo Mufunza, il sollicite des allègements fiscaux en faveur de ces deux province. Cette pétition a pour objectif, entre autres, de corriger les déséquilibres économiques créés par les affres de la guerre récurrente. On écoute les députés Ghislain Mufunza Bayengo au micro de Denise Lukeso.
Le chef de l'État, attaqué père de la nation, doit comprendre les cris d'alarme de cette population paupérisée, plus de 10 ans, en train de souffrir, massacrée. La population a perdu l'économie à moule. Que le chef de l'État puisse exprimer ce souci car il ne cesse de dire « le peuple d'abord ». Voilà une demande de la population, lui exprimer. Au lieu que le peuple puisse s'exprimer à travers les marches, voilà une voie pacifique d'expression d'une demande. Chef de l'État, écoutez les cris d'alarme de la paisible population du Nord Kivu et de l'Ituri. J'exhorte également le chef de l'État, magistrat suprême, de prendre une mesure salvatrice, de répondre à ce cri d'alarme de la population du Nord Kivu et de l'Ituri exprimé à travers cette pétition.
Et puis à Beni, une campagne de sensibilisation des jeunes à la culture de la paix a été lancée ce vendredi par l'organisation locale Jeunes Patriotes pour la Consolidation de la Paix, JPCP. L'objectif est d'inciter les jeunes à être des acteurs de la paix. La campagne va durer 3 jours. Guylaine Kassassia pour les détails.
Pour ce vendredi, première journée de cette campagne sur la culture de la paix, les élèves de l'école primaire Mututulo ont été sensibilisés à la tolérance, la réconciliation, le pardon et la cohabitation pacifique. Ils témoignent.
Au lieu de nous enseigner et cultiver la paix à travers le pardon, j'appelle mes amis à ne pas recourir à la violence lorsqu'il y a un problème. Et cela nous permettra de bâtir un Congo meilleur. Parce que si cela commence déjà par nous, les enfants, on ne vivra pas ce qu'on est en train de voir aujourd'hui.
Benjamin Assimoni, président de l'organisation Jeunes pour la Consolidation de la Paix, explique l'importance de sensibiliser les jeunes à la culture de la paix.
La campagne sur la culture de la paix, c'est pour sensibiliser les plus jeunes et les enfants sur les pratiques essentielles qui pourraient amener à la communauté de Beni d'avoir au moins une nouvelle génération qui ne substitue pas le sens de la paix seulement à l'absence de la guerre, parce que la paix c'est un facteur de vie, le pardon, la réconciliation.
À noter que ces jeunes de Beni ainsi sensibilisés deviendront à leur tour des ambassadeurs dans leur communauté. Beni, Guylaine Kassassia, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, à Bounia, des agents et fonctionnaires de l'État dénoncent les monnayages, selon eux, dans l'opération des contrôles biométriques en cours. Certains d'entre eux affirment qu'ils débourseraient entre 10, 20, voire 50 dollars américains pour être enregistrés sur la liste des pays ou obtenir des documents administratifs dont ils ont besoin pour régulariser leur dossier. Le chef des divisions provinciales de la fonction publique parlait plutôt des contributions volontaires. Le point avec Jean-Claude Loki-Dillet.
Depuis le lundi, le 2 août, agents et cadres de l'administration publique défilent au site érigé dans le de l'Institut supérieur ICIJ pour leur identification physique munie de leur dossier complet. Ceux ayant de pièces manquantes disent être obligés de payer des sommes variant entre 10, 20 et même parfois 50 dollars américains pour régulariser leur situation. L'un d'eux, dont la voix a été modifiée, témoigne.
Une gruge. 10 dollars à 50 dollars. Pourtant, lors du lancement de ce processus, le représentant du vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique, a déclaré devant le gouverneur que l'opération est gratuite.
Réagissant à ces accusations, le chef des divisions provinciales de la fonction publique parlait plutôt de contributions de plein gré de la part de ses agents et fonctionnaires de l'État, de données à l'ISO.
Imaginez, nous sommes au moins 17 000 agents à l'Ituri. Alors pour la notification, ça demande le papier, ça demande l'acre, comme nous n'avons pas le courant. Il faut également les groupes électrogènes pour ce travail-là. Il faut également motiver ceux-là qui travaillent, même au-delà des heures de service. C'est comme ça que les agents EBE sont venus nous consulter pour sauver leur situation.
Cette opération se déroule dans les 4 autres territoires de la province de l'Ituri, à savoir Aru, Djougou, Mahagi et Mambasa. Bounia, Jean-Claude Loki, Dile Radio Okapi.
Rendons-nous à présent dans la province du Maniema. L'administrateur du territoire, assistant en charge de l'économie et finances des Kasongo, a installé le nouveau chef de secteur des Basongé 2 Mweho le 4 octobre dernier. Sefulumbule Amissi a été installé en remplaçant à ce poste Kawaya Mwana Mufula Mpinga, qui assumait ses fonctions depuis 1965. Le nouveau patron de ces secteurs promet d'apporter sa contribution au développement du secteur des Basongé 2 Mweho. Florence Kizalunga, reportage.
Ce changement intervient après la signature de l'arrêté ministériel portant nomination des chefs de secteur de la RDC d'août 2023. Après 58 ans de fonction, les chefs de secteur sortants, Kawaya Mpinga, à travers les secrétaires du secteur, a remercié les autorités et la population pour la confiance, l'accompagnement et le soutien durant son règne. Il s'est dit disposé à accompagner son successeur. Reconnaissant que la tâche lui confiée n'étant pas facile, vu les défis à relever, les nouveaux chefs comptent les remonter ensemble avec sa population. C'est Fouloumboule Amissi.
Je m'engage à asseoir une session saine, orthodoxe, transparente, pour donner l'espoir à notre population. Il y a soif du changement tel qu'il est voulu par le chef de l'État. Il nous attend notamment manque d'efficacité sur la culture fiscale, la dégradation des routes et des déserts agricoles, manque d'eau potable pour la population. Mais convaincu de la volonté qui m'incarne, j'ose croire qu'on va démonter ces défis.
Ces derniers promet également de sensibiliser la population pour qu'elle s'approprie les processus électoraux en cours dans notre pays. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Dans l'actualité, plus de 200 ménages sans abri et d'importants dégâts matériels, bilan de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la cité des Kwamout dans le Maïndombe. Le député national élu de ce territoire, Guy Moussomo, appelle le gouvernement central à intervenir pour assister les sinistrés. À Bandundouville, retrouvons Irène Mboma.
Selon le député national Guy Moussomo, au moins deux enfants ont trouvé la mort à Kwamout à la suite de cette pluie torrentielle. Cette même pluie a causé 10 blessés graves qui sont pour l'instant admis à l'hôpital général de référence de Kwamout pour la prise en charge. Les lits de Kwamout révèlent que les murs et toitures des maisons étaient tombés sur les deux personnes décédées ainsi que sur celles blessées. La même source ajoute que cette pluie a aussi provoqué la destruction d'au moins 216 maisons dont certaines ont leurs toitures par terre et d'autres se sont complètement écroulées. Du coup, plus de 216 familles sinistrées passent nuit à la belle étoile. Les députés Guy Moussomo plaident pour une assistance en leur faveur.
Je demande au gouvernement central de venir en aide à la cité de Kwamout, au territoire de Kwamout. Parce que vous savez, aujourd'hui, le territoire de Kwamout ne s'est pas encore rétabli de ses plaies. Alors, avec la catastrophe d'une pluie, d'une telle violence qu'on ne pouvait pas en fait calculer, le gouvernement doit intervenir pour aider en fait cette population.
Signalons que c'est dans la nuit de mardi à mercredi dernier que cette pluie torrentielle s'est abattue sur la cité de Kwamout au Maïndombe. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et puis au Kasaï oriental, clôture ce samedi à Mbujimaï de l'atelier sur l'agriculture numérique. Ces travaux de deux jours ont été organisés par ALI, Institut africain des leaderships agricoles, qui a pour mission de promouvoir le leadership dans la transformation de l'agriculture africaine. Les étudiants de la faculté d'agronomie, des inspecteurs, des agronomes ainsi que des entrepreneurs agricoles ont pris part à ces assises et tenues au Sénarec. Des explications avec Esther Ndalafina.
C'est depuis vendredi que certains étudiants de la faculté d'agronomie, les inspecteurs, des agronomes et les entrepreneurs suivent la formation sur l'agriculture numérique. Explication de Asia Jafar, membre de Kali Kalambo au Sud Kivu.
Ce qui est software, on voit plus les applications qu'on utilise soit pour la détection de maladies sur les cultures, soit pour la cartographie de parcelles, hardware quand on voit l'utilisation de drones, de GPS.
Cette nouvelle approche est également appréciée par l'ingénieur Léon Lukusa, chargé des filières agricoles à l'EPST.
Non seulement l'élève pourra mettre l'accent sur la pratique, mais aussi il doit savoir combien il a produit. C'est la culture des chiffres qu'on inclut.
Les participants Doris Ndaya et Jean-Paul Piana estiment que les notions apprises vont leur permettre de réduire les coûts et améliorer le service.
Je suis capable de contrôler et de surveiller de près ce que je suis en train de faire comme travail.
Il y a même mesure de détection des maladies qu'attrape des plantes, donc très important pour moi.
Signalons que ALI dispose des brigades de jeunes formés pour accompagner les opérateurs agricoles dans la production végétale modernisée, l'élevage, la pisciculture, la mécanisation et l'éducation agricole. Esther Ndalafina, Mbujimaï, Radio Okapi.
Le ministère du Tourisme est appelé à travailler en collaboration avec d'autres secteurs afin de booster l'écotourisme dans les aires protégées. C'est l'une des recommandations de la conférence des deux jours sur la journée mondiale du tourisme clôturée ce vendredi à Kinshasa. Cette conférence a réuni plus de 70 participants venus notamment du gouvernement, des établissements publics, du secteur privé, du monde scientifique et universitaire. Merveille Hassani nous en dit plus dans ses reportages.
Maître Timothée Mukang est l'organisateur de ces assises. Il revient sur le bien fondé.
La loi sur son article 39, l'État veille à la création des zones d'expansion et de développement du tourisme. Un décret du Premier ministre fixe les conditions. Et la loi sur la conservation de la nature, article 26, dit voilà, l'État prend des mesures, des avantages nécessaires pour que les privés accordent des mesures incitatives pour l'écotourisme. Et donc nous sommes sur base de ces deux lois, nous avons justement lancé la réflexion sur les zones de développement.
Participante, la ministre du Tourisme dans le Maïndombé évoque ici la situation de sa juridiction en ce qui concerne le tourisme.
Nous on est en train d'essayer de grandir et donc au niveau du tourisme on peut se considérer encore comme une province qui est en train de chercher à émerger.
Ce genre d'activité devra se faire régulièrement, souligne pour sa part le secrétaire général au tourisme. En RDC. Jean Kingombe donne ses impressions.
Les communications et les débats ont été d'un niveau assez élevé et non seulement qu'on a parlé des choses qui sont présentes, mais également on a essayé de réfléchir pour l'avenir.
Rappelons que la journée mondiale du tourisme est célébrée le 27 septembre de chaque année.
Actualité internationale.
Des dizaines de roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers Israël ce samedi matin, mettant fin à une trêve globalement respectée depuis la fin d'une guerre de 5 jours en mai. La branche armée du Hamas a annoncé avoir déclenché l'opération déluge d'Al-Aqsa. L'armée israélienne a ensuite commencé à mener des frappes aériennes sur la bande de Gaza. Les tirs au départ de plusieurs endroits de la bande de Gaza ont commencé tôt ce matin. En Israël, les sirènes d'Al retentissent dans plusieurs villes autour du territoire palestinien, également à Jérusalem, mais aussi plus en profondeur dans les territoires vers le nord et l'est selon l'armée.
L'invité.
Au Nord Kivu et en Ituri, la force de la MONUSCO a poursuivi cette semaine des opérations visant à protéger les populations en détresse. C'est notamment dans la zone de Djougou en Ituri, mais aussi dans la zone de Kichanga au Nord Kivu, où sévissent des affrontements entre les Wazalendo et les M23. Pour en parler, nous recevons comme invité l'officier du bureau du porte-parole militaire de la force de la MONUSCO, le major Hassan Keira, dans cet entretien accordé à Bernardin Nyangui.
Major Hassan Keira, bonjour.
Bonjour Bernardin.
Nous allons commencer à Ituri où il y a eu un important fait qui a marqué en fait la semaine et où il y a un empêchement par la force de la MONUSCO d'une attaque menée par le CODECO contre les personnes déplacées au site de Lala. Comment ça s'était passé?
Une attaque des militants de la CODECO sur le site des déplacés de Djougou dans la province d'Ituri a eu lieu entre la nuit de mercredi et le jeudi 28 septembre. En réponse à cette hostilité, la MONUSCO a conduit une opération conjointement avec les FARDC pour déjouer cette attaque visant à porter préjudice à la population. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la collaboration opérationnelle entre la MONUSCO et les FARDC. En réponse aux récentes attaques menées par les groupes armés à l'égard des civils dans cette zone. Aussi, cette opération et d'autres à venir démontrent l'engagement de la MONUSCO en matière de la protection des civils menacés par les groupes armés.
Et au sujet de l'opération dont vous faites allusion, pouvez-vous nous la décrire?
Oui, comme vous le savez, déjà la MONUSCO avait renforcé sa présence aux alentours des sites des camps de déplacés internes. De ce fait, nos forces étaient déjà déployées et dès qu'ils ont observé des éléments de la CODECO qui approchaient le site, nos militaires ont commencé à tirer des coups d'avertissement. Ainsi, les militants de groupes armés ont été forcés à se retirer. La MONUSCO continue toujours d'effectuer des patrouilles dans cette zone en vue d'anéantir les groupes armés et assurer la protection de plus de 100 000 personnes dans le territoire de Djougou. Ces opérations faisant partie du mandat de la MONUSCO qui requiert la protection des civils sans apporter aucun support à n'importe quel groupe armé, puisque cela est bien évidemment contradictoire aux valeurs évoquées dans la Charte des Nations Unies qui sont la paix, la justice, le respect, le droit de l'homme, la tolérance et la solidarité.
Oui, nous connaissons que la MONUSCO coopère avec les FARDC pour libérer, entre autres, le territoire de Djougou ou des groupes armés. Et récemment, les deux composantes ont même conduit une opération offensive. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet?
La force MONUSCO et les FARDC ont conduit une opération militaire offensive le 2 octobre dernier en Massikiné, au territoire de Djougou. Cette opération était contre le groupe armé Codeco qui utilisait la chaîne de montagnes d'Ombou comme forteresse. À partir de cet emplacement, elle lançait des attaques contre les positions et les points de contrôle des FARDC. La Codeco conduisait aussi des activités criminelles contre la population civile, surtout entre cette chaîne de montagnes et la route nationale numéro 27. D'autant plus que le groupe armé Codeco utilisait les femmes et les enfants comme des boucliers humains, ce qui est considéré comme un crime de guerre par la Convention de Genève. L'opération offensive conduite conjointement par la force MONUSCO et les FARDC a permis de tuer 8 combattants du groupe armé illégal Codeco et de capturer leur camp. D'un autre point de vue, la planification et l'exécution de cette opération ont été couronnées de succès et ont démontré l'habilité de la coopération entre la MONUSCO et les FARDC dans le but de protéger les civils au territoire de Djougou. Enfin, d'autres opérations seront conduites par la MONUSCO en collaboration avec les FARDC dans le futur pour éradiquer les groupes armés du Congo.
Et qu'en est-il alors de la collaboration entre la MONUSCO et les forces de sécurité nationale? Nous parlons des FARDC qui, dans la province du Nord Kivu, est actuellement confrontée au combat qui oppose les groupes armés, particulièrement dans la zone de Kichanga.
Oui, la MONUSCO, dans ce sens, demande aux citoyens de Kelolerwi de rester vigilants après les clashs entre le groupe armé patriote et le M23 qui se sont produits le 1er octobre et les affrontements violents dans le territoire de Masisi du 4 octobre entre le groupe armé Wazalendo et le M23 en Borongo Basumba. Les informations concernant ces incidents ont été partagées immédiatement avec les parties prenantes. Nos troupes sont en état d'alerte. De ce fait, la MONUSCO a lancé de lourdes patrouilles à partir de la base opérationnelle permanente de Kichanga pour assurer la protection des civils en Kelolerwi. Pendant ces affrontements, un grand nombre de villageois ont été déplacés vers Kichanga, ce qui a suscité des inquiétudes en matière de la protection des civils et les personnes déplacées internes. En réponse à cette crise, le bataillon marocain de déploiement rapide a établi des points de contrôle à l'entrée de Kichanga pour faciliter et sécuriser le retour des personnes déplacées à Kichanga. Et toute l'aide humanitaire et assurance de sécurité ont été garanties à ces personnes déplacées. Somme toute, la MONUSCO reste déterminée à protéger les civils dans ce type de crise.
Major Hassan Kera, merci.
Merci beaucoup.
C'est la fin de cette édition du journal, supervisée par Alain Irung et coordonnée par Jacques-Yves Molima. Lechu Alassa à la présentation et Dieudonné Nyangasa à la mise en onde. Vous remercie de l'avoir écouté. Bonne suite des programmes.